Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez dire si le cas de Cotonou est un cas exceptionnel en Afrique ou il y a beaucoup d'autres villes dans ces problématiques vraiment très, très difficiles à résoudre? Et si le déplacement de population ne serait pas une solution, créer des zones économiques ailleurs? Parce que s'il y a tous les investissements internationaux qui sont perdus à chaque fois, ce n'est pas très, très efficace. Sans oublier, comme vous signaliez déjà, les problèmes environnementaux, d'élévation du niveau de la mer, donc perte de territoire et perte de terres. Les terres, c'est un problème dont les gens ne sont pas conscients actuellement. Les terres agricoles, c'est le problème qui vient tout de suite. Merci.
Oui, oui, il y a d'autres villes, hein, toutes les villes du Golfe de Guinée. Lagos, par exemple, hein, pas loin, connaît des problèmes de ce type. Alors, on a des agglomérations qui sont parfois tellement étendues qu'elles débordent le site initial. Donc, une partie de l'agglomération n'est plus située directement sur le cordon littoral. Mais les embouteillages, les problèmes de traversée urbaine, les problèmes d'inondation, les quartiers insalubres, les problèmes d'accès aux... l'évacuation des excréta ou la non-évacuation, tout ça, vous le retrouvez dans beaucoup de villes du Golfe de Guinée. Alors ensuite, le déplacement de ces villes, justement, c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des sites portuaires naturels ou fabriqués, mais qui ont été adéquats. Vous déplacez une capitale, vous imaginez, encore Cotonou, 1 200 000, vous n'allez pas déplacer Lagos ou Abidjan. Donc, c'est vrai que... on aimerait pouvoir proposer des solutions radicales, mais c'est difficile.
Pourquoi vouloir régler le problème à Cotonou, Porto Novo, Lagos, etc., alors qu'on est infoutu de le résoudre dans l'agglomération marseillaise? Regardez Vitrolles, Aubagne et compagnie. Moi, ça m'affole, ce genre de questions, de réflexion. Ça, c'est vraiment affolant, ça montre l'incapacité de réfléchir autrement. Par exemple, moi j'ai vécu mon enfance à Cotonou. Il y avait une activité de pêche, vous n'en avez pas parlé. Enfin, pas à ma connaissance, hein, je suis peut-être arrivé un peu en retard. Qu'est-elle devenue? Voilà, c'est la question que je pose, parce qu'on parle d'activité, pourquoi pas de zones franches, de zones foncières urbaines, avec des emplois francs payés par la Banque mondiale, on devient dingue. Hein. Voilà.
Oui, il y a un projet de zone franche urbaine à Semepoji qui n'est pas du tout financé par la Banque mondiale. Hein, c'est le Bénin qui en est à l'initiative et qui espère des financements chinois ou autres. Il y a un activisme du Bénin pour tenter de monter cette zone qui, pour l'instant, n'a pas vraiment décollé. Hein, elle est juste délimitée. Voilà. Moi, je prétends rien résoudre. Hein. Du tout, enfin, j'ai essayé justement de tenir un discours où je montre l'inefficience des projets successifs. Je prétends plutôt observer ce qui existe, comment les gens essayent de se débrouiller avec ça, cet héritage qu'ils ont reçu, parce qu'ils ont hérité d'une ville coloniale, une urbanisation qui s'est faite à un endroit qui n'était pas fait pour être urbanisé. Donc les réponses traditionnelles, si vous voulez, les savoir-faire, la maîtrise des variabilités du niveau de l'eau, c'est les maisons sur pilotis, c'est un habitat relativement peu dense, c'est les agégés, etc. Porto Novo est une ville historique, ancienne. Si on m'avait demandé de parler des villes historiques, des cités Yoruba, j'aurais fait ça. Alors on m'a demandé de parler du défi du développement durable. Donc je vous parle du défi du développement durable, en essayant de montrer les difficultés. Porto Novo, par exemple, ville précoloniale ou Ouida, sont situées légèrement en hauteur, en retrait, d'accord, sur le rebord du plateau de Terre de Bar. Elles n'étaient pas situées sur le cordon littoral. Donc, les activités de pêche, je les ai montrées tout à fait au début, premières photos aériennes, les parcs à Akadja. Hein, donc, l'activité de pêche continue à exister. Il y a un énorme savoir-faire dans le domaine. Évidemment, tout autour de Cotonou, les gens continuent à les pratiquer, d'ailleurs, dans des eaux parfois pas forcément propres. Mais... le golfe de Guinée. Oh, il y a de la houle, hein, ça brasse. Hein. Oui, bien sûr, les eaux usées de Cotonou. Au Nigeria, oui. Oui, mais là où la dérive littorale, c'est dans l'autre sens. Donc, c'est pollué, mais si vous voulez, c'est l'océan, il y a une grosse dérive littorale. Je ne pense pas que ce soit le problème majeur. Bon, le lac Nokwe, c'est un vrai problème qui commence à être sérieusement identifié parce qu'il y a des métaux lourds, parce que les pollutions d'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les excrétas. Il y a aussi des activités comme des teinturies, etc. Donc ça peut vraiment poser des problèmes pour le maintien de certaines activités vivrières, comme par exemple la pêche à Akadja. Alors, les villes précoloniales étaient à l'intérieur. Hein. Les villes précoloniales, même les comptoirs de vente et d'achat d'esclaves, comme Ouidah et Porto Novo, étaient légèrement à l'intérieur. Et le développement de la grosse ville portuaire avec infrastructure lourde, etc., comme Cotonou, c'est comme Abidjan, etc., à l'époque coloniale, nous, les Français, avons privilégié des implantations strictement littorales pour l'exportation de produits bruts qui étaient transformés où était transformée l'huile de palme de Porto Novo, de la palmeraie, à Marseille. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est complètement exogène, c'est pas adapté au milieu. Et le résultat, quelques décennies plus tard, c'est que les agglomérations se développent in situ, là où elles ont été créées. Dans une logique économique, hein, parce qu'au niveau économique, en effet, il y a des flux croisés, il y a les flux nord-sud, et vous avez tous ces flux est-ouest liés aux liens entre ces capitales qui sont toutes d'origine coloniale, et ça s'échange, parce que les frontières ont découpé des civilisations. Les Yorubas ont été coupés en tranches. De part et d'autre de la frontière, vous avez des gens qui appartiennent à la même civilisation, qui parlent la même langue. Donc c'est à la fois, tragique ou triste ou ce que vous voulez, mais en fait, c'est surtout bien pour le commerce, parce que de part et d'autre de la frontière, il y a des gens qui se comprennent, qui peuvent s'héberger, qui se font confiance, qui font partie de la même famille. Et ça commerce dans tout, ça commerce sur le cordon littoral. Mais bon, peut-être que quelqu'un a une solution dans la salle. Je vous ai montré que les mauvais côtés de Cotonou, là, hein, bien sûr. J'ai essayé de montrer quelques beaux paysages au début, mais c'est quand même une Afrique très, très active, très dynamique. C'est quand même, enfin, ça bouge, ça vit, ça brasse, ça travaille, ça vend. Enfin, il y a un côté, quand vous y êtes, vous n'êtes pas que dans les inondations, les matières fécales. Il y a aussi des quartiers chics, des quartiers aisés. Je ne peux pas tout vous montrer. Donc, il y a des beaux quartiers qui ne sont généralement pas inondables, qui peuvent l'être parfois, mais qui parfois tombent dans la mer, parce que ces gens qui ont construit au bord de l'eau, pourquoi on construit tant d'épis et tout? Ce serait des bidonvilles, on ne ferait pas des épis. C'est des quartiers très chics, hein, qui sont impactés par l'érosion littorale.
Merci. Est-ce qu'au niveau des échanges entre universitaires, on peut penser que des étudiants ou des universitaires, que ce soit en géographie ou que ce soit en économie, originaires de l'Afrique, ont des idées innovantes par rapport à leur pays. Est-ce qu'ils sont à même d'apporter des débuts de solutions?
Oui, je pense que oui. En tout cas, il y a énormément de travaux. Ça s'est beaucoup accéléré en 10 ans. Enfin, moi, ça fait à peu près une dizaine d'années, que, même depuis 97-98, que je suis cette région. Les travaux universitaires se sont multipliés en géographie, en océanographie, enfin, dans différentes disciplines. Il y a des travaux qui sont maintenant de plus en plus pointus. La connaissance des contraintes du milieu, etc., devient fine, et elle est maîtrisée par des étudiants, par des doctorants, par des jeunes, des ingénieurs. Hein. Il y a beaucoup de formations techniques au Bénin. Il y a de très bonnes filières d'enseignement. Alors après, le problème, c'est le lien entre le diagnostic et la mise en œuvre. Et puis la volonté politique. Hein. Etc. Le Bénin est gouverné par des gens qui sont des gens d'un très haut niveau intellectuel et de très haut niveau d'études, hein, qui ont été, qui sont des économistes, que ce soit Nicéphore Forsoglo, il y a Ibioni, le président actuel. Hein, c'est pas le dictateur du coin issu. C'est des gens qui ont une certaine clairvoyance, mais bon, évidemment, il y a les enjeux politiques, il y a la difficulté, comme vous le disiez, de déplacer. Quand il y a une telle inadéquation entre une urbanisation et un site, à un moment donné, il faudrait peut-être une solution radicale, mais ça paraît compliqué. Enfin, en tout cas, je pense que du côté des travaux de Béninois, où il y a beaucoup de choses, c'est assez prometteur.
Je voudrais parler par rapport au recyclage. Bon, ça pourrait être amélioré dans beaucoup de domaines, mais notamment ce qui concerne les matières organiques. Maintenant, au niveau mondial, on a des connaissances suffisantes pour produire des gaz. Alors qu'il y a des problèmes avec les pétroles, on pourrait produire du méthane pour être utilisé de façon optimale. Par ailleurs, vous avez parlé des palmiers à huile. Est-ce que c'est Elaeis guineensis? Et est-ce que cette huile est utilisée pour la combustion justement des moteurs en tant que carburant
Non, les palmiers. Il y a d'autres types de palmiers. Il y a le palmier raffia que vous avez parlé. Et puis, il y a d'autres.
Ben, raffia, écoutez, moi, franchement, je ne suis pas spécialiste. Donc, je sais qu'il y a du palmier raffia, bien sûr, parce qu'on produit un très bon vin de palme, du frais, fraîchement récolté. Ça fait partie des plaisirs du Bénin. Voilà. Donc, ça, oui. Et puis, voilà. Donc, là, j'ai oublié votre première... Ah oui, sur le recyclage des matières organiques, il y a eu des expérimentations, même au Bénin, notamment à Porto Novo. Il y a un centre qui s'appelle le CETOM, à côté de Porto Novo, où ont été formés, dans le recyclage des déchets, des gens repartis ensuite dans toute l'Afrique. Donc, c'est un lieu qui est fort intéressant au niveau de l'expérimentation, compostage, etc. Mais là, de l'expérimentation à la mise en œuvre à grande échelle, il y a souvent un gap qui est le manque de financement, des problèmes de structuration, d'organisation, de main-d'œuvre.
Et donc, au niveau de l'argent au niveau international qui floue vers les Bénins, est-ce qu'il est utilisé, disons correctement, ou il est plutôt détourné, comment ça se passe? Merci.
Écoutez, là, il est utilisé, je pense qu'il est globalement utilisé. Le Bénin est quand même vraiment placé sous surveillance par rapport à d'autres pays. Je travaille aussi sur le Congo, par exemple, qui est un pays pétrolier qui fait absolument ce qu'il veut, qui reçoit de l'argent, même si l'argent est un peu détourné. On a tellement besoin de ce pays-là pour des raisons géopolitiques. Donc, ce n'est pas le cas du Bénin. Ils sont quand même vraiment sous contrôle. L'argent de la Banque mondiale, souvent, n'arrive pas dans les ministères. Il arrive dans des agences indépendantes. Et d'ailleurs, ça crée des tensions fortes par rapport aux fonctionnaires, si vous voulez, les gens des services de l'État béninois qui voudraient agir ou faire des choses n'ont pas souvent accès au crédit. Donc, c'est des circuits parallèles qui vise à contrôler l'argent. Mais quelquefois, les projets eux-mêmes, par exemple, je vous ai montré le projet des ordures ménagères d'origine canadienne, les projets eux-mêmes ont un défaut de conception à la base. Par exemple, dans ce cas-là, ils ont imaginé que la gestion des déchets était communautaire. Ils n'ont juste pas pensé qu'à Cotonou, et c'est comme dans d'autres pays africains, ce n'est pas la population locale qui gère ces déchets. C'est quelque chose qui répugne à tout le monde, et c'est des migrants, et ça ne se passe pas dans un cadre communautaire. On pense que du moment que c'est l'Afrique, forcément c'est communautaire, que les gens vont s'entendre, etc. Mais non, c'est comme ailleurs, quoi. Et donc on va créer des systèmes néo-communautaires en faisant concurrence aux artisans informels qui sont dans le métier depuis des années. Donc, ou bien en méconnaissant l'usage des déchets comme remblai, parce qu'on ne veut pas voir ça. Donc on imagine forcément hygiène, décharge, etc. Donc il y a, et pourquoi? Parce que le problème, c'est que ces projets sont très bien, mais ces projets exogènes. C'est pas, on se fonde pas sur le diagnostic des pratiques sociales locales. Et si on prenait la peine, un, de le faire, le diagnostic, et deux, ensuite d'agir, parce que c'est bien beau de faire des diagnostics, à un moment donné, il faut passer à l'action. C'est, bon, bien que je sois chercheur et que je fasse beaucoup de diagnostics, je pense qu'il faut aussi dépenser l'argent pour agir et pas que pour chercher. Mais souvent, vous avez des projets qui arrivent comme ça avec des milliards, mais qui sont juste inadéquats. Voilà un peu le.
Bonsoir. Bon, d'abord, merci pour la qualité de l'exposé.
Merci.
Et j'ai une petite question, en fait, qui traite un petit peu plus de la partie inondabilité et qualité des eaux. Est-ce que vous avez eu, dans vos travaux, l'occasion de vous rapprocher de projets qui sont portés par l'IRD? Je pense notamment au projet AMA, une analyse multidisciplinaire de la mousson africaine, ou des projets comme le projet WEME 2025, sont portés par le ministère de l'écologie, plus particulièrement par la direction de l'hydraulique. Donc voilà, si vous avez eu l'opportunité.
Non, je sais qu'il y a de nombreux projets. J'ai discuté avec des gens qui travaillaient sur le projet Mousson. Il y a aussi tous les projets sur le paludisme, etc. Mais non, je n'ai pas participé, ni. Enfin, on peut pas être partout. Voilà, donc, non, à vrai dire, je ne suis pas directement connectée à ces projets-là. Mais je sais qu'ils existent et qu'ils associent étroitement des chercheurs, des équipes béninoises. Le Bénin, c'est un peu un laboratoire. Enfin, là, j'ai donné l'exemple du CETOM pour l'expérimentation sur le traitement des déchets qui exporte un peu un savoir-faire dans toute l'Afrique. Mais il y a plusieurs autres points pour lesquels le Bénin... je disais tout à l'heure, enfin dans les bons côtés de Cotonou, ça brasse, ça bouge, ça réfléchit, il y a des élites actives, c'est un endroit d'où peuvent émerger des innovations. Donc, alors, il se trouve que moi, dans le domaine qui est le mien, là, c'est plutôt l'urbanisme, c'est vrai que les innovations ne sont pas extrêmement probantes. Mais dans d'autres domaines, peut-être plus environnementaux au sens dur, entre guillemets, ruraux, là, il y a des choses très intéressantes, je sais, qui se font, mais je ne les connais pas bien.
Parce que là, sur la partie vraiment construction des routes et gestion des inondations dans les villes, c'est vrai que les corrélations sont quand même assez fortes avec ce genre de projet-là, vu qu'on essaie de gérer, enfin, en tout cas de modéliser la gestion de l'eau et l'évolution des flux à un niveau assez global. Donc voilà, je pense qu'il y a une corrélation qui est quand même assez forte.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Simplement, moi, c'est vrai que mon approche, c'est plutôt une approche par les pratiques sociales, donc ce qu'on appelle les approches par le bas, c'est-à-dire en observant comment, sur le terrain, vraiment, effectivement, les riverains ou aussi les politiques, comment ils font, comment ils agissent. Et donc, quelquefois, ça contrecarre complètement des modèles... Ça défie la logique, si vous voulez, où on voit des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Donc je pense que l'approche très empirique, comme ça, par le bas, peut être tout à fait complémentaire d'une approche physique. Hein. Enfin, physique.
Sur des projets comme AMA, par exemple, il y a une composante sociale qui est très forte aussi. Donc, c'est à la fois technique et à la fois sociale. Donc, pensez que ça peut être éventuellement complémentaire ou... C'était une simple remarque.
Non, mais voilà. Tout à fait. Si vous voulez, on utilise ces travaux pour caractériser les zones sur lesquelles on travaille, pour caractériser les zones humides. Bon, là, c'est juste un petit PowerPoint, hein, pour repérer les zones, les eaux douces, les eaux salines, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme potentiel d'activité agricole, de pêche, où est-ce qu'on peut encore avoir des activités de type vivrier, où est-ce qu'on ne peut plus en avoir, etc. Voilà. Ensuite, quand vous êtes sur la dynamique de lotissement, quand vous êtes en train de regarder comment les maires des communes décentralisées vendent les terrains ou comment les riverains remblaient, etc., là, vous êtes dans autre chose. Vous êtes vraiment dans du social, la production de l'urbain ou la destruction de l'urbain par les pratiques sociales. Bon, c'est des approches qui peuvent se croiser, tout à fait.
Merci.
Exception à la règle ou bien il y a d'autres pays où il y a des dirigeants très
oui bah très c'est modernes, oui il y a il y a d'autres pays où il y a des dirigeants d'un haut niveau de formation. En l'occurrence au Bénin c'est des économistes hein, les formation, deux voilà mais c'est pas toujours le cas. Donc moi je pense j'ai un peu un pays de référence sur lequel je travaille beaucoup qui est le Congo et on accuse souvent enfin il est assez courant d'accuser les élites politiques d'être arrivées, qui sont arrivées au pouvoir par des coups d'État ou autre, de pas prendre la mesure en fait de ce qui se passe. Donc dans le cas du Bénin, il faut avoir conscience que les élites au niveau national et celles qui sont au pouvoir actuellement et depuis Soglo et Yayoni, c'est des gens d'un très haut niveau et d'un vrai rayonnement international.
C'est agréable à entendre.
Voilà, mais c'est la vérité. Après, si vous voulez, quand vous êtes aux prises avec ce genre de complexe social et socio-territorial, comment faire ? Et puis ensuite, avec les relations, la famille, le jeu politique, hein, qui.
Oui, c'est pas clanique comme dans certains pays, tout de même.
C'est pas clanique. Il y a des. J'allais dire, des fois, certaines choses fonctionnent en famille, mais ce n'est pas spécifiquement africain. Ça existe aussi en Europe. Hein, donc,
En Europe, c'est des familles. C'est par famille. C'est pas,
oui, non, mais là, dans le cas, par exemple, de la famille Soglo, elle est très investie collectivement, je dirais, l'épouse, le fils. Bon, mais par ailleurs, c'est des gens qui ont... Bon, la famille... Mais ça n'empêche que, si vous voulez, c'est des gens qui, théoriquement, pourraient avoir un certain niveau d'expertise. Mais quelquefois, c'est pas un gage de réussite ni de développement, simplement parce que d'autres enjeux... Alors, on parlait de corruption tout à l'heure. J'en sais rien. Je vais pas vous dire, je sais pas si l'argent... Je sais pas où va l'argent. Je suppose qu'il y a de la corruption, parce qu'il y en a toujours un peu partout. Mais j'ai aucun élément particulier pour le donner. Mais si je compare avec d'autres pays sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, le Bénin, c'est quand même un pays où des choses se font. C'est un pays où vous pouvez circuler, c'est un pays où vous pouvez faire du commerce, c'est un pays où les paysans peuvent vendre leur production. Donc il y a des routes goudronnées, enfin toutes ne sont pas goudronnées, mais beaucoup le sont. Il y a quand même des infrastructures, enfin tout est relatif, quoi. Donc, c'est vrai que cette contrainte de site très forte de toutes ces villes du Golfe de Guinée, regardez ce qui s'est passé à New York il n'y a pas longtemps. Ville littorale exposée complètement au risque. Bon, voilà.
Et puis ce sont les risques pour l'avenir également, par rapport au réchauffement, etc.
Oui, mais je répète, les problèmes d'inondation à Cotonou n'ont strictement rien à voir avec le changement climatique. Ce n'est pas la mer qui monte, c'est la ville qui s'est installée là où elle n'aurait pas dû.
Oui, non, mais donc, ça, j'ai bien compris. Mais en dehors de ça, à New York, c'est parce qu'il y a des ouragans, etc.
Voilà. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas toujours eu des ouragans? Bon, enfin, là, on ne va pas rentrer dans le débat sur le changement climatique, là, on prête le flanc, si vous voulez. On a prêté le flanc en allant implanter des villes.
Nous allons prendre une dernière question. Là, nous allons devoir libérer la salle après pour une projection. Je suis désolé, monsieur, madame, vous avez demandé avant vous.
Juste parler des résultats des prospections pétrolières. Tu as parlé au début du fait qu'il y avait probablement une possibilité d'avenir de ce côté-là.
Je ne suis pas très, très au courant. Je sais que peut-être que monsieur, au fond, les plus, vous aviez l'air au courant de différents projets. Sur les prospections pétrolières, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du pétrole. Le problème, c'est le coût, enfin, c'est la rentabilité par rapport au prix mondial du pétrole. Donc, est-ce que ça vaut la peine? C'est offshore. Donc, c'est toujours. C'est comme la plupart des gisements, l'exploitation de la plupart des gisements pétroliers africains, d'Afrique centrale, etc., c'est fait à partir du choc pétrolier 1974 parce que c'est trop cher. C'est du pétrole offshore. Quand le pétrole était bon marché, le pétrole de la péninsule arabique était bon marché, c'était pas rentable. Donc, d'un coup, c'est devenu rentable. Donc, en fonction du niveau mondial ou de la rareté, ça va devenir rentable. Et puis, il faut tomber vraiment sur le bon... Oui, mais il y en a, forcément. Alors après, politiquement, il y a aussi une volonté de pas forcément s'engouffrer là-dedans, au Bénin. Parce que les dirigeants le savent, que le pétrole, c'est aussi toujours le risque d'un dérapage politique lié aux convoitises sur la rente, etc. Donc il y a quand même une certaine méfiance par rapport à la ressource pétrolière au Bénin. C'est assez intéressant à voir. Ouais. Mais bon, c'est possible que la belle plage qu'on a vue bientôt ne soit plus qu'un souvenir. Il y a aussi des projets de déplacer le port. Enfin, il y a plein de choses dont j'ai pas eu le temps de parler. Il y a des projets de déplacer le port de Cotonou, etc. Enfin, il y a plein de projets. De tourisme balnéaire, non. Mais de tourisme culturel, un peu, pas énormément, non. C'est d'ailleurs dommage parce que c'est un pays qui... Allez visiter le Bénin. On peut vous donner des adresses de tourisme, par exemple. Il y a une étudiante qui va peut-être partir au bord de la rivière Noire. Là, on a vu tout à l'heure ce très beau milieu de... parcouru par des pirogues, bordées de palmiers raffia. On remonte les horreurs. On va finir par une... Voilà, ici, là. Là. Voilà. Là. Donc là, on est à 40 km de Cotonou. Hein, donc il y a des endroits magnifiques. Puis culturellement, c'est extrêmement riche. Hein, le monde Yoruba, les cités-états précoloniales, la civilisation du vaudou. Enfin... qui n'est pas charmante, hein, qui est terrifiante, mais qui en même temps est fort, est absolument passionnant. Donc il y a énormément de choses à découvrir au Bénin. C'est un pays paisible, on y mange bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Allez au Bénin.
Donc un grand merci. On est obligé de s'interrompre parce qu'il y a une séance après un festival. Un grand merci Elisabeth Dorier pour cette conférence passionnante. Alors, elle va être. Elle va être retransmise sur. Donc, c'est un partenariat avec Radio Grenouille. Elle va être retransmise le 23 novembre à 10h. Et puis, vous pouvez aussi la podcaster. La dernière conférence de ce cycle, c'est le 8 décembre. Ce sera sur Mexico et l'habitat social, qui sera donnée par une urbaniste de l'IRD, Catherine Paquette. Voilà, merci à tous. Au revoir.
Merci.
Voilà, je vous...